Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, bienvenue dans ce nouveau numéro des Jeux du Mois. Je suis Cyrus et comme d'habitude je suis accompagné par Benoît FX, mais aujourd'hui en duplex des United States of America. Salut Benoît FX.
Salut Cyrus, effectivement d'habitude on est à 400 km de distance hein, entre Paris et la Lorraine.
C'est déjà pas mal.
Et là on doit être à 9000 je pense parce que je suis du côté de la Californie.
Il fait beau là-bas?
Bah, aujourd'hui il fait très beau, ouais. On a eu quelques jours de pluie mais globalement il fait meilleur qu'en France je pense.
Ouais, du coup tu vas nous parler d'un jeu américain?
Pas du tout.
Oh merde.
Pas du tout, mais d'un jeu auquel j'ai joué aux États-Unis parce que je l'ai pris dans ma valise. Je vais vous parler aujourd'hui de Just One.
Ok.
Et toi, du coup, Cyrus, ouais, tu nous parles de quoi?
Eh bien, moi, je vais vous parler de l'île au trésor.
L'île au trésor.
Je vais vous envoyer sur une île, une magnifique île avec un beau soleil également. Mais ça va trimer en revanche, il va falloir suer un peu pour trouver le trésor.
Bah, sinon c'est pas drôle, hein, s'il nous tombe tout cuit dans les mains. Est-ce qu'on avait des commentaires, Cyrus, sur l'épisode précédent?
Eh ben on en a quelques-uns des commentaires sur l'épisode précédent. On a un commentaire de Mathieu Verdier, pour commencer, qui concernait Ganymede, dont tu avais parlé.
Oui, Mathieu Verdier, du coup, qui bosse chez Sorry We Are French, qui est l'éditeur de Ganymede.
Donc en fait, il nous précisait que la prod était de 5000 exemplaires, la première production.
Ouais.
Le jeu a été en rupture chez le distributeur, et y avait un deuxième tirage qui était prévu pour mi-novembre, et qui du coup doit être arrivé, il me semble.
Oui, a priori, il est en stock chez Philibert, donc il a bien été réapprovisionné mi-novembre.
Ah, il nous parlait aussi rapidement de l'extension,
oui,
hein, qui devrait arriver pour Paris et Ludique 2019.
Dans 6 mois à peu près, quoi.
Ouais. Il y a quelques éléments qui sont, je vais dire fuités, c'est pas fuité, mais qui ont été communiqués. Apparemment, il va être question de la Lune.
Oui.
Dans cette extension.
Tout à fait. Hâte de découvrir ça.
Et bien, on verra ça. Du coup, peut-être déjà un premier prototype à Cannes, j'imagine.
Sûrement, ouais, j'imagine bien. Puisqu'on avait eu le prototype de Ganymede à Cannes cette année, là, en début d'année. Et qu'il était sorti à peu près au printemps.
Ensuite, on a eu évidemment un commentaire de Twin. Hein.
Le contraire aurait été étonnant.
Ouais. Bah, d'ailleurs, il nous dit dans son premier commentaire que c'est pas vrai, il ne laisse pas un commentaire à chaque fois. Hein. Comme quoi, mais...
C'est vrai.
Bah si.
Presque à chaque fois. Il nous remerciait pour la présentation en profondeur de Ganymede, parce que c'est un jeu qui, selon lui, a fait pas mal le buzz. Et du coup, c'était une bonne manière d'en entendre parler dans le podcast, où on a un peu plus détaillé le jeu. Il trouve qu'il y a une proximité avec Mission Planète Rouge de Bruno Faiduti et Bruno Catala sur la thématique, on va dire, mais le traitement mécanique est complètement différent.
Ah oui, non, c'est complémentaire. Pas grand chose à voir en vrai.
Non, mais c'est vrai que dans la thématique, c'est assez proche. Il a bien aimé aussi la présentation d'Affinity. Et je crois qu'il a fait il a fait une petite confusion avec Feelings aussi.
Je faisais la comparaison entre Feelings et Affinity, et du coup il a confondu les auteurs en fait,
oui,
les deux.
Ça. Voilà, et on a aussi un commentaire d'Arnaud Van Muizenwinkel que je n'ai pas trop compris.
Alors en fait c'est parce que j'ai parlé, alors je ne sais plus pourquoi, mais j'ai parlé de Steamrollers dans la chronique.
Je me souvenais plus.
Du coup il disait que effectivement il trouvait que ce Roland Wright était très bien.
Était un des meilleurs, un des meilleurs Roland Wright.
Voilà pour lui.
Ok.
Donc voilà pour les commentaires de la dernière fois.
Ça marche.
Et bah du coup je te propose de démarrer avec Just One.
On va parler de Just One. Donc pour la petite fiche signalétique, Just One c'est un jeu de Ludovic Rudy et Bruno Sauter. Alors ces noms ne vous sont peut-être pas inconnus puisqu'on a déjà parlé d'un de leurs jeux. Dans une catégorie très différente, puisque c'est les auteurs de 7e continent.
Jeu,
non, pas du tout, on va en reparler d'ailleurs, mais voilà, c'est les deux auteurs qui sont à l'origine de 7e continent, dont on a parlé dans cette émission déjà. Donc, je vous invite à réécouter l'émission si vous ne l'avez pas écouté. C'est édité par Repoprod, c'est distribué par Asmodée, hein, Repoprod oblige. Alors, on ne peut pas vraiment parler d'illustration dans le jeu, parce que c'est un jeu d'ambiance plutôt autour de mots. Il n'y a pas vraiment d'illustration, mais il y a Eric Azaguri et Florian Poulet qui sont crédités pour le graphisme, parce qu'il y a quand même un petit travail graphique de la boîte notamment, et de la couverture, et des règles.
Pour rendre le tout joli, quoi.
C'est ça, tout à fait. C'est un jeu pour 3 à 7 joueurs à partir de 8 ans, pour des parties indiquées à environ 20 minutes, ce qui est plutôt représentatif. C'est disponible chez Philibert à 17,90€, donc un jeu plutôt... abordable en termes de prix.
Qui se place bien justement dans sa catégorie, quoi, jeu d'ambiance.
Alors, qu'est-ce que c'est exactement que Just One ? Donc c'est un jeu, comme je l'ai dit, un jeu de mots, en fait, dans la catégorie de la grande famille des jeux où il faut faire deviner des mots. C'est un jeu coopératif, important, donc dans lequel, chacun son tour, on va devoir deviner un mot. Les autres joueurs vont donner des indices pour trouver ce mot.
Sous la forme d'un mot, c'est ça, hein ?
C'est ça, c'est toujours un mot. Non, c'est toujours un mot. Le joueur doit deviner un mot. Et les indices que donnent les autres joueurs, c'est toujours un mot. Donc, c'est comment ça va se passer ? Explication assez rapide, puisque pour une fois, le jeu va être expliqué en moins de 5 minutes, je pense. Donc, en gros, le joueur actif va piocher une carte. Il y a 110 cartes dans le jeu. Et sur chacune des cartes, il y a 5 mots numérotés de 1 à 5. Donc, il va la mettre devant lui. À l'aide, il y a un petit chevalet en fait qui sert à la fois d'ardoise effaçable, c'est du Velleda, et il y a une petite encoche aussi qui permet de poser la carte sur le chevalet devant soi, sans la regarder en fait, parce que le joueur qui doit deviner le mot, il va poser une carte sur laquelle il y a 5 mots, sans regarder les mots qu'il y a dessus, et il va annoncer aux autres joueurs un nombre entre 1 et 5 qui va correspondre à un mot. C'est le mot qu'il va devoir deviner. Une fois qu'il a choisi ce mot, les autres joueurs vont écrire un indice sur leur petite ardoise, et avant de le présenter aux joueurs qui doivent deviner pour lui faire deviner, ils vont d'abord comparer entre eux les indices qu'ils ont marqués. Donc on compare, et s'il y a un indice qui apparaît plusieurs fois, eh bien on l'efface, ou on ne va pas le montrer en tout cas aux joueurs qui doivent deviner le mot. Donc c'est assez subtil, parce que voilà, si on doit faire deviner, je ne sais pas, par exemple le mot « petit », et qu'on met...
Si je mets grand et que quelqu'un d'autre met grand, voilà, par exemple...
On l'efface, et donc l'indice grand ne sera pas disponible. Et donc, on va se retrouver avec un nombre d'indices qui est différent d'une manche à l'autre en fonction des indices qui ont été donnés. Donc les mots évidents qui permettent de deviner facilement vont souvent être mis par plusieurs joueurs et donc vont être effacés. Donc on va se retrouver avec des mots beaucoup plus compliqués pour deviner le mot. C'est tout l'intérêt du jeu. Et donc après, avec ces indices restants, le joueur va essayer de deviner un mot. C'est un jeu coopératif, donc en fait, comment ça va se passer ? Il n'y a pas vraiment de... Enfin, les points, ça va être une échelle, en fait. On va jouer avec 13 cartes en tout, d'accord ? Donc, peu importe le nombre de joueurs, on met un paquet de 13 cartes au milieu de la table. Chacun son tour, on va essayer de... Enfin, on va prendre une carte pour essayer de deviner un mot. Si la réponse est bonne, en fait, la carte en question est mise de côté et vaudra un point à la fin de la partie. Si le joueur ne le sent pas, il peut passer, et dans ce cas, la carte est juste défaussée, ça fera 0 points.
Oh, le petit du...
le petit joueur, oui, ouais, le petit...
C'est ça, le petit joueur,
Pas, pas d'insanité, s'il te plaît. Donc, et bah, si, voilà, s'il fait le petit bras, bah, qui décide de passer, en fait, je vais vous expliquer pourquoi ça peut avoir intérêt, mais la carte est mise de côté, elle ne vaudra pas de points. Par contre, s'il donne une réponse, mais que la réponse est mauvaise... Non seulement la carte en cours est mise de côté, elle ne vaudra pas de points, mais il y a une carte de la pioche parmi les 13 cartes, enfin il y en aura moins si vous en avez pioché, mais il y a une carte qui est grillée en fait. Donc ça fera, potentiellement, ça fait 2 points en moins.
Tu perds 2 points quoi.
2 points sur 13 en moins, tout à fait. Donc voilà, l'intérêt c'est de, quand on n'est pas sûr, des fois vaut mieux passer, parce que sur les 13 cartes, en faisant ça avec toute la pioche, on regarde combien de points on a fait à la fin, donc entre 0 et 13. 13 étant un score parfait, eh bien on a une petite échelle dans la règle, voilà, comme on peut l'avoir dans d'autres jeux coopératifs d'ambiance, notamment dans, je pense à Twin It, mais il y en a d'autres aussi où il y a ça, sur la règle coopérative. On a une échelle qui nous dit nul, ou peut mieux faire, ou pas mal, ou voilà, grand champion si on arrive à faire les 13. Mais bon.
Mais t'es en train de me décrire un jeu quand même, j'ai quand même vachement l'impression d'y avoir déjà joué.
Oui, tout à fait.
Et pourtant, ça ne s'appelle pas comme ça.
Tout à fait, j'allais y venir. Donc, l'histoire du jeu, un peu, Just One, il faut savoir que c'est une réédition d'un jeu qui s'appelle We Are The World, comme nous sommes les mots. Ce qui est un nom pas super heureux, parce que quand on tape We Are The World dans Google, il nous propose la correction direct, avec We Are The World, et on a le clip directement de cette chanson, cette fameuse chanson des années 90,
que nous allons bien sûr vous passer immédiatement.
Tout à fait. Ce qui est étonnant pour une réédition, c'est que déjà, c'est pas une réédition d'un jeu qui est sorti ailleurs qu'en France, c'est un jeu français, et c'est une réédition d'un jeu qui a été édité en 2017, donc l'année dernière.
Ouais, c'est ce que j'allais dire, voilà, c'est pas comme s'il avait 10 ans ce jeu quand même.
Tout à fait, c'est pas une réédition d'un ancien jeu ou d'un jeu étranger en fait qui est édité pour la première fois en français. C'est un jeu qui a été édité en 2017 par Fun Consortium. Alors, Fun Consortium, c'est quoi ? C'est une boîte d'édition que les auteurs ont montée. Donc si vous avez suivi l'épisode sur 7ème continent, ces deux auteurs ont déjà monté une première boîte d'édition qui s'appelle Serious Pulp. Donc ils avaient déjà ils étaient déjà à la tête d'une maison d'édition, mais au moment où ils ont fait We Are The World, ils trouvaient que Serious Pulp n'était pas vraiment adapté à un jeu d'ambiance. Il avait plutôt l'image gros jeu, surtout après 7ème continent. Donc ils ont créé une autre marque, pour faire un jeu d'ambiance. Alors, faut savoir que, pour la petite histoire, ce jeu a été fait, pas en même temps, mais sur la fin de 7ème continent. Donc c'était aussi une manière de ressortir ça avec Serious Pulp, juste en même temps que le 7ème continent. C'est vrai que ça aurait été un petit peu bizarre, je pense, en termes de si ça avait été le même éditeur. Donc, ça a été édité en 2017. C'est vrai que c'est un peu passé sous le buzz, parce que moi, j'en avais pas entendu parler de We Are The World.
Alors, c'est marrant, je suis content que tu le chroniques, parce qu'en fait, j'ai failli chroniquer We Are The World.
Bah voilà, tu vois, à l'époque, j'en avais pas entendu parler.
Il y a à peu près un an, dans cette période-là, je crois, je l'avais joué, j'avais trouvé ça vraiment pas mal. Il y avait quelques défauts d'ergonomie, on va en reparler, je pense.
Ouais, c'est prévu. Il y avait quelques défauts d'ergonomie, effectivement, mais c'était un jeu qui était déjà distribué par Asmodée, il me semble, mais qui, ouais, c'est vrai, était resté assez... avait pas vraiment explosé auprès du grand public.
Nouvel éditeur. Enfin, moi, j'en avais quand même entendu parler à gauche, à droite, hein, parce que... Ouais. On va en parler, c'est quand même un bon jeu.
Tout à fait.
Mais effectivement, il avait eu un succès plutôt d'estime, au final.
C'est
et
ça.
Puis peut-être une distribution un peu plus discrète, parce qu'au final, cet éditeur, Fun Consortium,
il est inconnu. Tout à fait, ouais.
Je me rappelle d'ailleurs, je l'avais essayé à PEL, donc l'année dernière.
Ouais, PEL 2017,
et,
du coup.
J'étais passé devant le stand de Fun Consortium, je me suis dit, c'est quoi cet éditeur, genre, ça faisait vraiment décalé, je sais pas, le nom, tout ça, me donnait l'impression d'une boîte d'édition qui finalement n'y connaît rien, arrive un peu comme ça avec son jeu, et puis, je dis, on va essayer quand même, les tables étaient libres et tout. Tu sais, t'arrives sur les festivals, ouais, les tables libres, c'est toujours un peu louche. Là, les tables étaient libres et tout, on essaye, puis c'est pas mal quand même, c'est plutôt chouette, quoi. Donc voilà, on avait fait une partie, puis après, moi, je suis pas super fan du coup de l'échelle, tu sais,
je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Je vais en reparler aussi un petit peu, je pense. Ça mais fait partie coup, ça des marche, côtés quoi. Un peu... Voilà, des points un petit peu négatifs du jeu, mais effectivement ça marche. Et donc ce jeu We Are The World a été repéré en fait par les gens de Repoprod lors des Belgoludiques l'année dernière. Donc les Belgoludiques, c'est un festival un peu privé en fait, je crois que c'est Repo d'ailleurs qui organise ça.
Enfin bref, je sais pas.
C'est un espèce de grand. C'est comme un week-end proxy jeu en fait, organisé par Repoprod. Donc ils invitent un peu les gens du milieu qu'ils connaissent ou qu'ils aiment bien. C'est entre 80 et 100 personnes. Et ils s'enferment un week-end entier et ils testent des jeux. Et donc, We Are The World est passé sous les yeux et sous les mains des gens de chez Repoprod qui ont dit c'est bien comme jeu.
Pourquoi c'est pas mal,
pourquoi,
ça.
Pourquoi c'est pas nous qui l'avons fait Et voilà, donc ils ont contacté les deux auteurs. Et ils leur ont proposé de rééditer en fait le jeu, ce que les auteurs ont accepté immédiatement parce que effectivement Repoprod, en termes de visibilité et en termes de réputation, ça aide quand même, je pense, surtout sur les jeux d'ambiance. Hein. Ils sont quand même plutôt connus pour faire pas mal de jeux d'ambiance. Ils ont fait notamment Time's Up, qui est, je pense, un jeu que tout le monde connaît, même des non-joueurs, tout le monde connaît Time's Up. Et voilà, donc ils ont accepté sans problème. Et le jeu a été réédité un an après, ou un petit peu plus d'un an après, mais vraiment rapidement par rapport à l'édition originale. Si bien qu'il reste encore, si vous cherchez We Are The World, il doit rester encore des boîtes de l'édition originale. Parce que
dans les magasins, c'est possible.
Dans les magasins, ça doit encore se trouver. Mais c'est pas une réédition telle quelle, parce que Repoprod a quand même une expertise sur le jeu d'ambiance et une expertise dans l'édition en général. Et du coup, ils ont quand même repéré quelques faiblesses du jeu, notamment au niveau ergonomique du matériel. Et donc ça a été corrigé dans la version Just One. Peut-être qu'on va y revenir un petit peu. Voilà, donc ça c'est pour l'histoire du jeu. Au niveau des trucs bien, pas bien dans le jeu, donc déjà, comme vous l'avez entendu à l'explication des règles, c'est un jeu qui est très accessible. C'est expliqué en 3 minutes. Vous avez expliqué le jeu et c'est accessible vraiment à toute la famille. C'est à partir de 8 ans et effectivement, à 8 ans, on peut y jouer, comprendre très très bien le principe du jeu.
C'est limite même, tu fais un tour à blanc pour expliquer.
C'est
ça. Tu dis, tiens, il faut faire deviner tel mot. Allez, vas-y, tu mets chacun crée un mot sur sa tablette. Et là, bam.
Puis là, t'effaces tout.
Il fallait peut-être pas faire si simple.
C'est ça.
Et voilà, et là, c'est bon, tout le monde a compris quoi.
D'ailleurs, les auteurs, l'accessibilité, c'était un des objectifs des auteurs qui sortaient de 7e continent et qui voulaient faire justement quelque chose, un jeu auquel ils puissent jouer facilement avec leur famille ou avec leurs amis qui n'étaient pas joueurs.
Ah bah, ils sont passés de 20 pages de règles à une page quoi.
C'est
même
ça. Même pas, parce qu'en fait, sur le dos de la boîte, il y a les règles qui tiennent en trois étapes, écrivez, comparez, devinez quoi. Mais bon, c'est un peu léger pour comprendre tout le jeu, mais. Mais ouais, ça tient en un feuillet facilement, un feuillet de règles facilement. Donc c'est malin comme jeu, mais c'est pas si simple. Parce qu'effectivement, quand on donne un indice évident, il y a une forte probabilité qu'il soit effacé parce que quelqu'un va penser à la même chose. Je sais pas, si on doit faire deviner pompier, il y a de fortes probabilités qu'il y ait rouge ou feu ou camion qui sortent. Mais par contre, si on met des trucs trop tordus, alors effectivement, le mot va pas être effacé.
Mais il va pas aider.
Mais il y a de fortes chances que ça aide moyennement la personne qui doit trouver la réponse. Et surtout, si tout le monde cherche à faire un truc vraiment tordu pour éviter d'avoir des mots en commun, si on a des indices qui partent un peu dans tous les sens et qui sont trop tordus, c'est vraiment très compliqué à deviner. La position de la personne qui devine n'est pas évidente parce qu'il y a vraiment des gens qui vont trop loin dans l'indice,
trop loin dans la réflexion,
dans l'indice qui doit pas être évident quoi. Et des fois justement il y en a qui mettent des trucs très évidents à chaque fois et ça passe parce que les autres sont c'est un avantage aussi de connaître les joueurs avec qui tu joues. Si tu sais qu'il va aller sur des trucs tordus, si tu sais qu'une personne va aller sur des trucs tordus, tu peux dire bon je vais sur des trucs un peu plus conventionnels.
Tu peux pas te retrouver même d'ailleurs à un peu biaiser le jeu en avoir un joueur qui justement fait toujours les trucs hyper simples, les trucs un peu les plus évidents, et non, tu as une sorte de répartition des rôles au final, non?
Si, c'est un peu. Alors, c'est comme tous les jeux d'ambiance, c'est un peu une faiblesse des jeux d'ambiance, mais c'est que les règles sont pas forcément respectées à la lettre. Et il peut y avoir beaucoup de parlotte autour de la table, genre ah non, mais je sais que tu vas mettre ça, donc moi je mets autre chose. C'est vrai que si on veut jouer exactement dans les termes des règles, il faudrait vraiment ne pas parler, faire poker face, ne pas du tout dire. Ce que tu vas mettre, vraiment jouer dans une ambiance un peu plus
drôle,
calme et pesante, mais moins drôle, forcément. Voilà, c'est aussi ce qui fait le charme de ce genre de jeu, c'est que ça parle, ça négocie, ça fait des insinuations, ça mécaniquement ça change un peu.
De toute façon, le but de ce genre de jeu, c'est quand même de créer de l'amusement autour de la table.
Tout à fait.
Après, c'est une question de convention entre les joueurs au final.
Voilà.
Si les gens sont tous prêts à accepter que ça déconne un peu et que ça joue un peu à la parlante, comme on pourrait dire. Pour les jeux de cartes,
c'est ça.
Peu importe, si les gens prennent du plaisir autour de la table, ça reste quand même.
C'est vraiment l'objectif
surtout
du jeu,
sur ce genre de jeu.
C'est clair. Mais donc ça rejoint aussi un peu le système de score, qui est ce système d'échelle, qui est effectivement un peu bateau et qui a un intérêt qui est vraiment très limité, parce que effectivement, en fonction de si on parle beaucoup ou si on joue vraiment en mode hardcore, le score il veut plus rien dire au final. Et c'est vrai que C'est un système qui est pas super élégant et pas super intéressant, mais effectivement en termes de scoring sur des jeux coopératifs d'ambiance, il faudrait trouver la bonne idée, en fait. Pour l'instant, c'est ce qui est un petit peu utilisé. Mais au final, comme on a déjà pu le dire pour des jeux comme Imagine ou comme Concept,
comme Affinity aussi,
ou comme Affinity, effectivement, la partie scoring, en fait, elle est relativement, relativement accessoire. C'est pas... Alors, il y a des joueurs, je pense, qui vont vraiment jouer le défi à fond, c'est-à-dire vraiment jouer sérieusement en mode poker face, je ne laisse pas paraître ce que je vais mettre et on va essayer d'atteindre les 13 points. Donc ça peut être ça peut être challenge hein, ces 13 points, mais globalement
parce que tu as quand même un mécanisme dans le jeu qui joue sur le fait de t'amener à chercher les points, puisque tu as la possibilité de sauter ton tour, voilà, qui va réduire ta perte, en fait, potentiellement, ou réduire ton gain, selon si tu aurais trouvé ou pas.
C'est vrai, c'est vrai.
Donc, ok, ils ont fait un truc qui est un peu bateau et tout, mais finalement, ils ont quand même mis cette règle-là. Ils auraient pu dire tu donnes un mot, et puis c'est gagné, c'est perdu. Quoi, tu vois.
C'est vrai. C'est vrai, du coup, tu peux le jouer comme ça, notamment avec des enfants,
bien
je pense.
Sûr, hein.
Voilà, c'est un peu moins punitif, mais effectivement, il y a cette réflexion de dire est-ce que je suis sûr de moi ou pas, quoi. Ce qui fait d'autant plus douter et ce qui fait d'autant plus réfléchir, effectivement, la personne qui devine. Ça permet de mettre une petite couche de réflexion supplémentaire.
Et de fun aussi, parce que quelque part, après, tu vas pousser l'autre, tu lui dis attends, vas-y, mais donne un mot, toi, tu vas un peu le narguer, essayer de le piquer au vif, quoi, lui dire attends, vas-y, mais donne un mot, quoi, tu vas pas abandonner quand même. On est si près de gagner.
Moi, je suis plutôt du genre, si t'es pas sûr, ni rien, parce qu'on va perdre des points.
Oui.
moi, je veux faire beaucoup de points, donc tu vois, si t'es pas sûr à 100%.
Ah, donc toi, tu veux quand même la gagne. Alors, moi, du coup, le scoring est un peu, tu vois, je vais plutôt avoir tendance à lui dire allez vas-y donne un mot, quoi. Mais peut-être que de mon côté en revanche je me restreindrai.
Ouais.
Mais juste pour titiller l'autre joueur à la table, je vais l'inciter à donner un mot, quoi.
Ouais, bah oui.
Enfin, bref.
Mais après, dans les autres points légèrement négatifs, il y a cette échelle de score, mais à la rigueur, bon, c'est pas, comme on l'a dit, c'est pas ce qui fait le sel du jeu.
On s'en accommode, quoi.
On s'en accommode tout à fait. L'autre chose aussi, c'est, donc il y a 550 mots en tout, 5 par carte, 110 cartes. En fait, il y a des noms propres qui, moi, me perturbent un peu. Parce que la grande majorité mots, c'est des mots, c'est des objets ou des métiers, ou enfin des mots, des noms communs, quoi. Beaucoup de noms communs. Et il y a quelques noms propres qui, pour le coup, sont très difficiles à faire deviner parce que les gens s'y attendent pas forcément à ces noms propres. Et il y en a même certains qui sont un peu pointus. Enfin, j'ai un exemple. En termes de jeu, j'ai joué pas mal au bureau, enfin avec les collègues, au travail, ça marche très très bien, c'est rapide, entre midi et deux, ça passe crème. J'ai joué pas mal à l'association aussi, on a une association, donc là tout public, plutôt joueur, mais tout public au niveau d'âge. Et j'ai joué en famille là pendant mes vacances, donc avec mon neveu qui va sur ses 9 ans, qui a 8 ans, donc vraiment l'âge minimum, mais ça marche très très bien. Et c'est vrai que il y a certains mots en fait qui peuvent être problématiques. En fonction du public, et notamment les noms propres en fait qui sont assez difficiles. J'ai un souvenir au bureau, on est tombé sur Stark. Donc Stark, ça peut être à la fois Tony Stark, Iron Man, ça peut être Philip Stark, le designer, ça peut être les Stark de Game of Thrones. Enfin voilà, et ça c'est les noms propres, je les trouve pas évidents et je sais pas trop s'ils ont un intérêt dans le jeu. Je vois pas trop ça peut changer un peu, mais dans ce cas ils auraient peut-être dû faire une petite partie des cartes avec que des noms propres, et dans ce cas tu te dis nous quand on joue à ça, j'ai tendance à préciser si c'est un nom propre ou un nom commun, parce que sinon la personne a tendance à chercher des noms communs, en fait. Va pas aller, si tu lui dis pas en fait qu'il y a les deux et que ce qu'il doit deviner c'est un nom propre, naturellement les gens vont essayer de deviner des noms communs plutôt.
Là, ce qui m'étonne encore plus là-dedans, c'est que les noms propres ça périme.
Tout à fait.
Moi je me rappelle de Famous par exemple, qui est un jeu que je trouve vraiment pas mal.
Ouais.
Mais tu l'achètes aujourd'hui, c'est juste c'est que des cartes de personnalité en fait, hein, de personnalité ou de personnage. Mais t'as les trois quarts de la boîte qui est périmée en fait, quoi.
Après c'est comme c'est comme Contrario, c'est des jeux aussi qui sont propices à faire des rééditions régulières avec des mises à jour des cartes.
Ouais, mais pourquoi s'handicaper à devoir faire des mises à jour de cartes, tu vois ?
C'est vrai.
Bon. Après, c'est sûr que ça amène de la variété, quoi.
Voilà, bon, ça, c'est le petit bémol, quoi. Bon, après, il y a des trucs genre Churchill, tu vois. Je suis en train de regarder un petit peu les cartes. Il y a des trucs un peu plus...
Ils sont peut-être arrangés pour que ce soit pas trop
périssable. Ouais,
parce que l'exemple de Stark, justement, il est amusant parce qu'en réalité, il peut, oui. Toi, tu peux l'amener par plein de façons moyens, différentes
tout à fait,
au
final. Il y a Potter aussi. Mais tu vois, c'est pas comme s'il y en avait un par carte, quoi. C'est assez. Enfin, la répartition des noms propres est assez. Assez aléatoire. Après, il y a des marques aussi, mais ça, c'est un peu moins gênant, je trouve. Type Nespresso, ce genre de choses. Enfin, voilà, moi, je sais pas. Je sais que j'ai eu 2-3 situations où j'ai trouvé ça assez compliqué et perturbant pour certains joueurs, le fait qu'il y ait des noms propres au milieu de beaucoup, beaucoup de noms communs, quoi.
Bon, tu dis ça parce que t'as perdu, quoi.
C'est ça. Non, mais je sais pas. C'est un petit bémol très léger. Hein.
Non, mais je comprends bien. Hein. Et du coup, t'as joué dans les différentes configurations, 3, combien, 7 déjà, tu m'as dit ça?
Ouais, alors j'ai déjà joué à 3. Alors 3, c'est la seule configuration où il y a une petite variante. Parce qu'à 3, il faut imaginer qu'il y a une personne qui devine et il y a deux joueurs qui font deviner.
T'as deux mots, ouais.
Donc t'as deux mots, il suffit qu'ils soient pareils pour que t'aies zéro mot. Et donc, même si ça peut arriver à plus de joueurs, voilà. C'est quand même très très rare qu'il y ait zéro mot. Donc à 2, en fait, enfin à 3 joueurs, la variante c'est que chaque joueur a deux petits chevalets et donc va mettre deux mots à chaque fois.
Deux mots, ouais.
Donc il y a 4 mots qui vont être sur la table, potentiellement des mots communs quand même entre les deux joueurs. Donc bon, généralement il y a au moins deux mots qui sont retournés. Parce que les joueurs entre eux, enfin déjà un joueur va pas être deux fois le même mot sur ses tablettes, enfin ce serait un peu bête.
Normalement,
c'est pas trop. Et du coup voilà, ça c'est la seule petite variante. Et après à 7, ben il y a 6 mots, donc c'est assez intéressant parce que en fonction du nombre de joueurs, plus il y a de joueurs, plus il y a de mots, donc on se dit plus c'est facile à deviner pour le joueur qui devine. Mais en même temps, plus il y a de mots, plus il y a de chances qu'il y ait des mots communs. Et donc il y en a souvent beaucoup plus à 7 joueurs qu'à 4 joueurs. Donc ça s'équilibre bien tout seul en fait.
On sent que globalement, effectivement, ça peut avoir tendance à s'équilibrer, quoi.
Ouais, toutes les configurations marchent plutôt bien. J'ai joué de 3 à 7, ouais. Alors, j'ai peut-être pas fait toutes les configurations une par une, mais globalement ça marche bien à chaque fois. À 3, c'est peut-être un petit peu moins marrant.
Ouais, bah il y a moins de monde autour de la table.
Il y a peut-être moins aussi de variété dans les indices, puisqu'il n'y a que 2 personnes qui donnent des indices, donc avec 2 manières de penser, c'est les mêmes personnes à chaque fois, c'est moins varié en termes d'indices peut-être. Mais autrement, c'est plutôt très agréable dans toutes les configurations.
Très bien, ok.
Au niveau du matos, donc je l'ai dit, il y a des cartes, il y a des petits chevalets, on mettra des photos, hein, mais des petits chevalets en plastique qui sont Velleda, et il y a des stylos feutres avec un effaceur au bout, enfin des Velleda avec effaceur au bout, qui sont de couleurs différentes. Donc ça c'est un petit détail, mais c'est plutôt sympa parce que après on identifie un joueur à sa couleur, et on peut voir que tel indice est écrit en orange, donc on sait que c'est Cyrus qui l'a donné, et que Cyrus il est plus ou moins tordu, donc on sait qu'il faut plus ou moins prendre en compte l'indice ou pas, quoi. Enfin voilà, c'est en fonction
ça des c'est joueurs. Alors c'est une première différence déjà avec
Wear the World. World.
Ouais, où tous les stylos étaient noirs.
Voilà.
Qui avait au moins du coup le mérite de se lire facilement, parce que peut-être que le orange ou le jaune.
Il n'y a pas de jaune. Ouais. Quand même, ce serait un peu compliqué. Non, oui, bon, globalement, ça se lit plutôt bien. Après, effectivement, j'ai pas joué dans la pénombre avec une petite lumière qui éclaire mal. Mais,
non, mais de toute façon, si tu vois pas bien, enfin, tu peux demander à ce qu'on te lise le mot. Enfin, c'est pas gênant dans ce genre de jeu.
Non, tout à fait. Le deuxième changement d'ergonomie principale, c'est ces petites tablettes Velleda. Parce qu'avant, en fait, c'était des espèces de plateaux plats, en fait.
En forme de bulle,
des cartons en forme de bulle. Donc, déjà, quand t'écrivais le mot. C'est à plat sur la table, donc les autres joueurs peuvent plus facilement zioter dessus. Là, le fait que ce soit un chevalet, c'est relevé.
Tu pouvais le tenir dans ta main quand même.
Ouais, tu peux le tenir dans ta main, mais c'est ce côté-là. Et puis il y a le côté surtout aussi, quand tu compares, il y a la personne qui devine doit fermer les yeux en fait, le temps que tu compares les mots pour pas les regarder. Et donc là, quand tu compares, quand tu vois les mêmes mots, tu peux facilement basculer. C'est un chevalet triangulaire, donc tu peux facilement le basculer. Et donc laisser les autres mots visibles, et donc en termes de temps, t'as pas besoin d'effacer ou de retourner. Enfin, en termes de manipulation et en termes de, faut dire que le chevalet aussi tient la petite carte. Donc ça c'est pratique aussi pour que tu ne la vois pas, mais les autres la voient. Tu la mets à l'envers sur le petit encoche du chevalet. Voilà, c'est une petite modification qui paraît toute bête, mais qui dans les parties, je pense, est plus optimisée.
Ouais, j'avais J'avais vu le matériel, enfin, j'ai vu que sur internet le matériel pour le coup sur des photos, mais effectivement je me suis dit effectivement c'est pas con, le coup du chevalet qui fait le double emploi du coup pour tenir la carte et
pour écrire, pour écrire,
c'est des petits trucs, c'est vraiment des trucs tout cons, mais au final c'est mieux quoi. Voilà, c'est pas l'ancien jeu était pas injouable,
oui,
hein,
oui,
mais
non, tout à fait.
Tu te retrouvais à devoir écrire sur ta tablette. Alors, en gros, tu la prenais dans ta main, la tablette, t'écrivais dessus. Et après, pour la cacher, soit tu la gardais dans ta main. Donc, pour boire ta bière, ce sera un peu plus chiant, mais voilà. Donc, tu peux pas boire ta bière et prendre des petits gâteaux en même temps. Ou alors, tu la poses sur la table. Mais du coup, si tu la poses sur la table, tu vois, imagine, t'as le Velleda, ça s'efface. Ouais. Si t'as une nappe ou un truc, tu peux soit attacher ta nappe, soit. Bon.
Tout à fait, ouais.
C'est tout con, en fait, mais. Et voilà, c'est des petits détails, c'est là qu'on voit
l'expertise,
un éditeur qui a de l'expérience et
de repoprod dans le domaine.
Et puis peut-être un peu plus de moyens aussi, parce que du coup j'imagine que le tirage il est absolument pas comparable à l'ancien,
c'est sûr.
Et du coup tu peux te permettre d'avoir un matériel un peu plus
qualitatif pour un prix qui peut être même un petit peu plus bas quoi, parce que c'est vrai que 17,90€ c'est un prix qui est bon. Après il y a ce qui doit coûter c'est les chevalets et les Velleda, je pense, parce que après c'est que des cartes, hein,
le reste c'est clair.
Alors Repos a dit aussi qu'ils avaient un peu retravaillé les mots et les cartes, forcément ils ont gardé dans la première édition il y avait 500 mots, donc il y avait 100 cartes de 5 mots. Ils ont un peu retravaillé le design des cartes pour que ce soit un peu plus lisible et ils ont gardé certains mots de l'ancienne édition et ils en ont rajouté des nouveaux. Voilà, il y a un petit retravail aussi au niveau des cartes et des mots. Voilà pour les changements, mais l'ergonomie est plutôt bien, ça. Les modifications du matos en tout cas ont apporté un petit peu plus d'ergonomie comme tu dis, même si le jeu n'était pas injouable avant quoi.
Bah c'est bien tout ça.
Bah ouais, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Alors c'est un jeu, forcément il n'y a pas de suite ou d'extension. En contenu additionnel, il pourrait y avoir, après c'est comme Time's Up, soit des autres, enfin d'autres mots ou soit des thématiques un peu particulières, type cinéma ou voilà, enfin ça peut.
Ouais, sachant que justement après tu peux sortir ton Time's Up si tu veux.
Voilà, tout à fait. Tu peux utiliser des mots venant d'autres jeux, tout à fait ça. Ouais,
tu peux sortir ton dictionnaire, tu peux voilà quoi.
C'est ça. Après, je pense qu'il y a moyen de faire des variantes au niveau des comptages de points, notamment, on l'a évoqué. Je pense qu'il y a peut-être même moyen de faire, si vous voulez faire un truc pseudo-compétitif, tu peux dire que la personne qui devine, si elle devine, elle a tant de points. Puis après, elle peut attribuer des points aux joueurs qui l'ont fait deviner par rapport aux indices qui l'ont le plus aidé. Tu vois. Enfin, par exemple, s'il y a 4 joueurs qui te font deviner, tu as 4 points à attribuer. Tu peux donner 4 à une personne ou une à 4 personnes. Enfin, tu pourrais faire un mode compétitif un peu comme ça. C'est ouvert à pas mal de variantes. On verra s'il y en a des plus ou moins officiels qui émergent dans les prochains temps.
Ouais, effectivement, c'est pas bête, oui.
Un peu à la Imagine ou à la Concept, finalement, qui pourrait être, en fait, où tu pourrais faire des variantes coopératives de la même manière que là-dessus, avec une échelle de score sur un certain nombre de mots à faire deviner, quoi. Enfin, ça marche dans les deux sens, en fait.
Oui, c'est vrai.
Voilà, comme vous l'avez entendu, on a plutôt, comme tu as joué aussi, enfin, à l'ancienne version, mais on a plutôt un très bon avis sur ce jeu. Hein. C'est vraiment, dans le genre, c'est vraiment un très bon jeu. Il est accessible à tous, c'est très familial, il est très efficace, il est rapide. Enfin, on peut enchaîner 2-3 parties sans problème et avec plaisir. Pour l'instant, moi, j'ai joué pas mal. J'ai dû faire une quinzaine de parties. Il n'y a pas encore de lassitude. Alors, il peut y avoir des mots qui reviennent un peu.
Ça, c'est quand tu as mal rangé tes cartes. Ça.
Ouais, c'est ça. Ouais, mais après, t'as quand même même si tu as la même carte, t'as une chance sur 5 pour tomber sur le même mot, donc finalement ça.
Ah, mais après, c'est la loi de Murphy, après, tu peux rien.
C'est ça.
Tu repioches la même carte et le même mot.
Après, le truc que je voulais dire aussi, c'est qu'il peut y avoir des situations assez drôles ou assez. C'est un peu embêtant avec les enfants, notamment parce qu'il y a certains mots ou certains noms que les enfants vont pas connaître. Donc, faut soit changer la carte. Soit ça aurait été bien peut-être d'avoir des cartes, je sais pas, par niveau, tu vois, avoir deux séries de cartes avec un niveau spécial pour enfants, parce que franchement, il y a des mots, un enfant de 8 ans, bon, je disais Stark par exemple, bon, Stark, un enfant de 8 ans, ça va être très compliqué quand même à faire deviner,
c'est
quoi.
Compliqué, ouais.
Jackson, c'est un peu limite. Enfin, les noms propres, globalement, avec les enfants, ça marche en plus beaucoup moins bien. Et après, il y a des choses un petit peu pointues que les enfants connaissent pas forcément. Mmh. J'ai pas d'exemple en tête, mais
Du coup le 8 ans est limite en fait du coup.
En fonction des mots.
Ou alors il faut vraiment faut que tu sautes des mots. Quoi.
C'est ça. Mmh. Il y a certains mots qui peuvent être un petit peu problématiques pour des enfants en dessous de 12 ans, je dirais. Mais bon, voilà, après il suffit de faire un tri.
Oui, comme c'est coopératif de toute façon.
Oui.
Tu t'en sors, quoi.
Et quand c'est l'enfant qui doit deviner, tu vois, c'est toujours un peu. Et puis, à l'assaut, on a eu un gros fou rire aussi parce que on en jouait avec un enfant qui devait avoir 8-9 ans aussi. Et donc, il tire une carte et sur la carte, parmi les 5 mots, il y a le mot trou. Alors, bon, c'est con, hein, il faut avoir l'esprit mal placé, mais on a vu le mot trou, on s'est dit, on espère qu'il va pas choisir ça parce que. Et donc il a choisi, bien sûr, il l'a choisi, quoi. Il a dit le numéro qui correspondait à trou. Donc il y en a qui ont commencé à avoir un fou rire autour de la table. C'est parti en esprit mal placé tout de suite.
Alors, du coup, il a pas compris avec les indices perforatrices pourquoi épelle et.
Voilà, non, mais si, il a trouvé, je crois. Les gens rigolaient quoi. Épelle, tombe, enfin c'est. Mais bon, ça a fait rire les gens. Voilà, il y a des mots qui peuvent. Il y a des mots. En fait, quand tu vois les cartes, tu vois les 5 mots, t'en vois un, tu te dis. Tu vois là j'ai le mot où il y a étalon dessus par exemple, enfin c'est con hein, ouais. Y a des mots comme ça où tu te regardes entre les joueurs, tu te dis qu'est-ce qu'il va choisir, tu regardes le mot, tu fais merde.
Ou même croire que ça a été fait exprès en fait hein.
C'est ça. ça peut être fait exprès. Pareil, des fois il y a des mots très très difficiles à faire deviner, tu vois, où tu te dis tu vois la liste des 5 mots, tu te dis ah non, pas celui-là. Et il choisit, et là t'as le petit moment où tout le monde se regarde autour de la table, oh putain,
ah,
mais comment on va faire. Voilà, bon, enfin bref, un très bon jeu qu'on vous conseille, qui est, je pense, idéal si vous avez si vous comptez faire des cadeaux de Noël en jeu de société, pour la famille, pour des gens qui sont pas hyper joueurs, ou même pour des joueurs en termes de filler et tout ça, c'est vraiment très très bien.
Ouais, c'est la bonne période, c'est pour jouer même à Noël.
Ouais, même pour jouer en famille à Noël, ça marche très très bien, ouais, tout à fait.
Tu m'as donné envie d'y rejouer du coup, tiens.
Bah. Rejouez-y.
Ouais, j'avais pas acheté l'ancienne version. Justement, du coup, c'est pour ça que j'avais pas chroniqué, parce que déjà je l'avais pas.
Tu l'avais pas, ouais.
Et puis, mais là, du coup, peut-être que je vais l'acheter.
Bah, moi, je l'ai découvert du coup au festival Orléans Joue, là, en septembre. Et on l'a essayé sur le festival, et ça a été un. On l'a pas acheté sur le festival, mais genre quelques semaines après, il était dans mon panier.
Eh ben c'est cool.
Bah, je vous refais la petite fiche signalétique rapidement. Donc, c'est un jeu, donc c'est Just One, qui est la réédition de We Are the World, qui est un jeu de Ludovic Roudy et Bruno Sauter, édité par Repoprod, distribué par Asmodée. Les graphismes sont de Eric Azaguri et de Florian Poulet. C'est pour 3 à 7 joueurs à partir de 8 ans pour des parties de 20 minutes. Et c'est en vente chez Philibert à 17,90€. Voilà pour Just One.
Très bien.
Bon, je suis impatient d'écouter L'île au trésor maintenant.
Eh bien allez, on y va alors. Partons pour l'île au trésor. Alors, l'île au trésor, c'est un jeu de Marc Paquin qui a été illustré par Vincent Dutré et édité chez Matago. C'est un jeu annoncé pour 2 à 5 joueurs pour des parties de 45 minutes. Alors là, on y reviendra parce que 45 minutes, on va dire que c'est une moyenne.
Okay. Voilà.
Je pense d'ailleurs que ça a été calculé sûrement comme ça. Et le jeu est disponible à 42,90€. Donc là, on est en tout cas sur
du plus gros jeu.
Voilà, en termes de tarifs, on est sur du plus gros jeu. Mais on va voir que le jeu n'est pas si conséquent que ça.
D'accord. Je crois que Fendoel nous en avait déjà parlé, c'est ça, au retour de Cannes 2017. Enfin, il y a quelques années déjà, il a essayé au off.
2017, il l'avait essayé au off. Il m'en avait parlé déjà. Enfin, moi, je l'avais vu jouer en fait au off.
Ouais.
Ça m'avait vraiment titillé. C'est un jeu que j'attends depuis vraiment très longtemps en fait. Parce qu'il a vraiment cette particularité de jouer avec le matériel.
Ouais.
De jouer avec le plateau, voilà, enfin je vais y venir, mais en fait dans l'île au trésor on fait une vraie chasse au trésor. Et on va chercher un trésor qui est planqué quelque part sur une carte qui est matérialisée par le plateau de jeu,
la fameuse carte au trésor.
On est sur l'île, on est représenté nous-mêmes par un personnage, par un
pion.
Une petite figurine,
ouais.
Voilà, et on va déplacer notre figurine sur la carte à la recherche du trésor qui a été planqué par l'un des joueurs.
D'accord.
Qui joue donc de façon différente, hein, c'est un jeu asymétrique,
okay.
Et qui joue le personnage de Long John Silver. Alors, je sais pas si t'as lu L'île au trésor.
Tout à fait.
Bon, donc c'est tiré de cette histoire, hein. En tout cas c'est le thème qui a été adopté pour le jeu. Donc Long John Silver a planqué son trésor sur l'île. Il a été rattrapé par les pirates qui l'ont foutu au trou, et le fameux trou, et qui tente de lui soutirer des informations pour savoir où est planqué le trésor, et part donc à la recherche de ce trésor sur l'île. Donc, j'ai dit, c'est un jeu asymétrique, donc Long John Silver va être contraint de donner des indices aux autres joueurs pour leur indiquer où se trouve le trésor qu'il a caché sur l'île. Donc l'île, elle est dessinée sur le plateau, et il y a un système de
quadrillage.
Alors pas de quadrillage, mais pas de relief, mais d'éléments de décor. Voilà, t'as des éléments de décor en fait qui sont typés, c'est-à-dire que t'as de la forêt, ouais. Tu as de l'eau, tu as des constructions, enfin, tu vois, t'as des éléments comme ça de repères, quoi.
Ok.
Qui sont matérialisés sur le plateau. Et tout ça, ça va être des éléments sur lesquels Long John Silver va pouvoir se baser pour donner des indices. T'as aussi le nord qui est indiqué sur le plateau, le sud, etc. T'as okay. les quatre points cardinaux. Et puis t'as des positions relatives qui vont pouvoir être données par rapport aux figurines des personnages eux-mêmes.
D'accord.
Donc t'as un cadencement dans le jeu, les joueurs vont jouer chacun leur tour, et Long John Silver, lui, va de temps en temps, hein, et là c'est cadencé par le jeu, hein, c'est pas complètement régulier, va de temps en temps devoir donner un indice à l'ensemble des joueurs, au moyen de cartes qu'il a en main. Il a trois cartes en main, il va devoir choisir un des indices parmi les trois. Donc il a quand même des contraintes, hein, tu peux pas vraiment faire tout ce que tu veux. Et quand on joue Long John Silver, hein, qu'on doit donner un indice, on a toujours l'impression d'enlever. En gros, en fait, tu vas éliminer une partie du plateau.
Ouais, tu vas restreindre la zone de recherche, quoi.
Voilà, c'est ça, tu restreins la zone de recherche. Et à chaque fois que tu joues une carte, t'as l'impression d'enlever un quart de la carte, quoi. Et vraiment, dès le départ, c'est la première carte que tu poses, les premières cartes que t'as, globalement, c'est à peu près ça, hein, ça enlève quasiment un quart de la carte, quoi. Ouais. Tu fais waouh. Tu te dis, mais vous trouvez tout de suite, quoi, c'est pas possible.
Et après, les joueurs doivent trouver avec quelle précision, du coup, ils doivent être, c'est pile poil sur le truc ou.
T'as un système, et c'est ça que le matériel du jeu entre en action. Tu as des gabarits pour faire ta recherche. C'est-à-dire que toi, ton personnage, tu vas le déplacer. Donc à ton tour de jeu, au début du jeu, t'as une action, et plus loin dans le jeu, tu vas avoir deux actions par tour.
Ok.
Tes actions possibles, en gros, c'est du déplacement et de la recherche. Les recherches, en fait, tu vas utiliser des cercles qui sont, je sais pas comment on appelle ça, mais si vous vous rappelez au lycée, je crois que c'était au lycée, en géographie, il fallait faire des cartes et on avait des traces cercles pour faire des
compas
sur des cartes. C'est pas un compas pour le coup,
c'est vraiment un cercle
en plastique
qui fait un certain diamètre.
Exactement. Et donc on utilise des feutres Velleda, hein, pour matérialiser tout ça sur le plateau en lui-même.
D'accord.
Et c'est ça qui va donner le côté vraiment très très chasse au trésor en vrai sur le plateau.
Oui, parce qu'on va dessiner toute une série de cercles.
Voilà, tu vas tracer ton déplacement. T'as une règle pareil en plastique transparente. Tu traces ton déplacement. T'as le droit pour ton déplacement, t'as le droit à une certaine distance, hein, donc tu dois respecter cette distance sur la règle. Et puis, tu peux faire des recherches. Et là, en gros, tu as deux gabarits. Tu as un petit gabarit qui est pas très grand, qui fait genre 2 cm de diamètre, tu vois. Donc, c'est quand même pas gros. Puis, tu as un gabarit un peu plus gros qui doit faire, 4-5 cm de diamètre.
D'accord.
Et donc, quand tu fais... tu peux faire soit un grand déplacement, soit un petit déplacement avec une petite recherche, soit juste une grande recherche sur une zone dans laquelle tu te trouves.
D'accord. Et si le trésor est dans ta zone de recherche, t'as gagné.
Voilà, c'est okay. Ça, exactement. Et du coup, ça fait que le jeu peut aller très vite au final, hein, parce que si tu tombes
chance,
bien,
ouais.
tu peux avoir de la chance, tu peux tomber bien et tomber sur le trésor. Quoi. Bon. Et donc les joueurs vont jouer comme ça chacun leur tour, donc en déplacement, en recherche. Alors, quelques actions spéciales sur lesquelles je vais pas forcément m'attarder, mais bon, il y a une action spéciale sur laquelle je vais m'attarder. Long John Silver, tous les temps de tour, c'est pas régulier, mais on va dire tous les temps de tour, il va donner un indice. Ouais. Et au bout d'un moment, il a la possibilité de bluffer sur certains indices.
D'accord.
En fait, quand il donne un indice,
fausses pistes.
Voilà. Quand il donne un indice, il va placer un petit jeton sous la carte, face cachée. Et ce jeton, il indique si l'indice est vrai ou s'il est potentiellement faux. Il ne veut pas dire qu'il est faux.
Il peut mettre un indice vrai, même s'il a la possibilité de bluffer.
Voilà, c'est ça. En gros,
ça brouille les pistes quand même. Quoi.
C'est ça. Et donc ça, c'est en gros le premier indice que tu vas poser, il est forcément vrai. Et à partir du deuxième, tu vas pouvoir bluffer une fois, puis quand tu vas avancer dans la partie, tu vas récupérer un autre jeton de bluff. Tu vas pouvoir bluffer une deuxième fois. Et donc, une des actions des joueurs, c'est de regarder ces jetons. Et ça, tu peux le faire deux
individuellement.
Fois. Voilà, ouais. Tu regardes un jeton. Et ça, tu peux le faire deux fois dans la partie uniquement.
Ok. Et les joueurs sont chacun pour soi. C'est le premier qui trouve le trésor.
Exactement. T'as tout compris. Les joueurs jouent chacun pour soi. Donc, évidemment, tu regardes l'indice, mais tu le dis pas aux autres. Tu dis pas, enfin, pas l'indice, pardon, tu regardes le jeton pour savoir si c'est un vrai indice ou pas. Mais tu le dis pas aux autres. En revanche, tu peux tenter de deviner ce que l'autre a vu. Parce que si.
Oui, s'il s'éloigne de la zone, c'est que finalement, c'est potentiellement du bluff, quoi.
C'est ça. Ou alors lui-même bluff.
Ah, ça devient rotor.
Ouais.
Ça devient
bon, rotor. Ce qui n'est pas forcément super valable dans ce jeu, parce que c'est quand même une course contre la montre. Hein. Il faut que tu sois le premier à trouver le trésor. Enfin, déjà, il faut le trouver. Donc, admettons, tu as 4 joueurs, par exemple, tu as 3 joueurs qui cherchent le trésor. Déjà, il faut qu'un de ces 3-là le trouve pour faire perdre Long John Silver, et uniquement le joueur qui aura trouvé le trésor va gagner. Ouais. Long John Silver, lui, il doit tenir le plus longtemps possible. En fait, au bout d'un moment,
en fonction du nombre... Il y a forcément quelqu'un qui le trouve, quoi.
Pardon ?
Il y a forcément quelqu'un qui trouve le trésor à la fin.
Oui.
Enfin, la partie s'arrête que quand il y a quelqu'un qui trouve le trésor.
Oui, enfin, sauf que Long John, lui, il sait où il est. Donc, en fait, il ne le trouve pas, il va le chercher, en fait. À la fin, au bout d'un moment, Long John va pouvoir jouer comme les autres joueurs.
Se déplacer, ok.
C'est ça, il va juste se déplacer, lui, il n'a pas besoin de chercher parce qu'il sait où est le trésor. Donc il va aller au bout d'un moment dans la partie, il va partir d'un point et il va aller jusqu'à son trésor, si possible en ligne droite évidemment, le plus vite possible en tout cas.
Là, il peut aussi bluffer en allant ailleurs, non, pour attirer les autres joueurs.
Il peut, mais encore une fois, comme c'est du contre la montre, tu peux pas complètement bluffer, quoi. En fait, quand Long John va pouvoir se déplacer, il va pouvoir se déplacer de la distance d'un grand déplacement, qui est représenté par 6 miles sur le plateau. Alors, s'il est à 6 miles, il a zéro intérêt de bluffer. Il faut qu'il aille sur le trésor.
Il en a un coup, quoi.
S'il a plus, évidemment, il peut tenter de prendre peut-être
bifurquer
pour essayer de planter un peu les autres joueurs. Mais tu peux pas t'amuser à dire si je peux y être en deux déplacements, je vais y aller en trois, quoi. C'est pas valable.
Voilà. C'est pas dans l'intérêt du joueur.
Voilà. Voilà, donc l'île au trésor. Ce qui est chouette, en fait, c'est que tu te plonges direct vraiment dans ce côté chasse au trésor. Alors, déjà, rien que quand tu ouvres la boîte, tu découvres tout de suite le matériel qui est atypique. Tu retrouves ses gabarits, la règle en plastique. Tu trouves un compas, un énorme compas en fait, qui va te servir à tracer des grands cercles sur le plateau. Et puis tu découvres, et ça m'a vraiment fait triper quand j'ai ouvert la boîte. Il y a un petit, il y a un compartiment. Ils ont fait ça comme si c'était une malle. Tu soulèves, c'est un insert en carton, non ? Ouais. Tu soulèves un pan avec une tête de mort dessus, et dessous tu trouves du matériel en fait, et c'est hyper con, hein. C'est vraiment
effet coffre-fort, hein.
Exactement, ça fait effet coffre, tu ouvres ta boîte et t'as encore des trucs qui sont planqués dedans, quoi, tu vois,
c'est chouette,
c'est vraiment c'est trois fois rien, mais en fait c'est une super bonne idée, quoi. Hyper ça te met tout de suite dans le thème, en fait. Moi j'ai été surpris au départ par le matériel, parce que alors je l'ai dit, hein, on va écrire sur le plateau avec des Velleda, mais en fait tu peux écrire sur tout le matériel avec des Velleda.
D'accord.
Et donc tout est glacé façon ardoise Velleda, quoi. Du coup, c'est vrai que quand tu l'ouvres au départ et que tu dépunches ces trucs là, t'as une sensation de truc un peu cheap, parce que
tout est brillant.
Tout est brillant et tout est pas très épais, et tu dépunches. Ouais. Tu sais, quand tu dépunches, normalement c'est du carton un peu épais quand même, quoi. Ça fait
rigide
carton
et épais,
Voilà. Alors là c'est, ça te donne l'impression que c'est du carton, du coup, pas épais. Alors qu'en fait, faut plutôt prendre ça pour des cartes, tu vois.
Ouais.
Et du coup, c'est des cartes épaisses.
Mais carton fin ou des cartes épaisses, quoi.
Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que j'ai eu cette impression de matériel un peu cheap au départ, alors qu'en fait, ben, tu t'y fais et tu te dis, ben, en fait, non, tu sens que c'était la volonté inverse, parce que l'idée, c'est pas de faire du carton rigide, c'est pas très adapté, des tuiles pour ce qu'on va en faire. Typiquement, c'est les cartes d'indices. Effectivement, quand tu joues, tu te dis, ben, je verrais pas ça en tuiles, ce serait trop épais, c'est pas adapté.
Ouais.
Mais c'est vrai que quand tu découvres le matériel et que tu dois aller dépuncher ces cartes, ben, ça fait un peu bizarre, quoi.
Et il y a un intérêt de pouvoir écrire sur les cartes d'indices?
Alors, bah, quand t'es Long John, enfin quand t'es pirate, hein, peu importe, on dit ça c'est la carte A par exemple, et du coup on met la zone A sur le plateau, la zone qui a été barrée A, ben tu okay, dis okay. C'est celle-là, comme ça tu...
Tu lis l'indice à...
Ou zone.
À la carte, quoi.
C'est ça.
De la carte. Ouais. Et le fait que ce soit brillant et glacé, ça, c'est pas gênant avec les reflets, par exemple, enfin, ça
Non,
ça empêche pas la lisibilité.
J'ai pas eu de problème avec ça. Okay. Au niveau de la lisibilité, je sais qu'il y a des retours, il y a des gens qui disent que c'est pas toujours super lisible. Ben, en fait, ça fourmille un peu de détails. Ouais. Du coup, tu pourrais être tenté de te dire, ça aurait peut-être été mieux finalement si on avait fait des grosses masses vertes pour dire que c'est la forêt. Ouais, sauf qu'en fait, c'est quand même vachement joli, quoi, avec le détail des arbres, etc. Ouais. Alors, c'est pas non plus une carte, ça fait pas penser à une vieille carte au trésor où on aurait représenté les arbres de profil, mais vu de dessus, tu vois. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire.
Oui, je vois ce que tu veux dire.
C'est pas du tout comme ça. Trésor, hein. Là, c'est vraiment vu du dessus, quoi.
Ouais, là, c'est plus une carte type hygiène, enfin, un truc détaillé, quoi. Une carte de rando.
Oui, ça s'apparenterait plus à une photo satellite ou quelque chose comme ça, quoi.
Ok.
Donc, sur ce, t'as deux côtés. T'as le plateau principal. Des deux côtés, t'as la même île qui est représentée.
Ouais.
D'un côté, c'est les couleurs normales, on va dire. Vraiment, à l'avant-centre du trait, c'est les couleurs qui pètent un peu, quoi. Et de l'autre côté, t'as un côté plus, alors qui se voulait sépia.
Ouais,
mais qui est un peu trop foncé pour être sépia. Alors apparemment, je suis allé traîner un peu sur les forums pour glaner quelques infos. Apparemment, effectivement, ils voulaient que ce soit sépia et c'est un peu raté au niveau des couleurs. Du coup, c'était censé être un côté un peu plus lisible parce que le problème c'est pas tant les détails en fait, c'est quand tu traces tes traits dessus.
Oui, tu vois pas très bien les traits. Voilà, tu vois pas toujours très bien les traits en fonction des couleurs. C'est ça.
T'as exactement, chaque joueur a sa couleur. Donc, t'as du rouge, du orange. Alors, déjà, le rouge-orange, bon. Mais, bon, sincèrement, je trouve que ça passe. Après, t'as du bleu. Alors, bon, il y a de l'eau. Donc, l'eau, elle est bleue. Et puis, t'as du vert. Bah, la forêt, elle est verte. Donc, bon. Mais, bon, globalement, ça. Moi, je trouve que ça va. Mais c'est vrai que. Tu voudrais pouvoir jouer sur un côté sépia un peu plus pâle, et là il est un peu foncé, donc du coup au final ça corrige pas grand chose.
D'accord.
Cela dit, apparemment ce côté là il est un peu mieux pour les daltoniens, parce qu'on a joué avec Pionfesseur qui est daltonien, et il trouvait que c'était. Je lui ai dit tu veux jouer quel côté, il m'a dit ouais, plutôt le côté là quand même, le côté donc sans les couleurs qui pètent. Donc voilà, bon ça c'est un peu le détail sur le matériel, mais bon sincèrement moi je trouve que c'est tout à fait jouable. Hein.
Et un truc que j'ai pas tout à fait saisi, le Long John Silver, il indique où la position du trésor ? Il a un truc, il a une petite carte à part ou...
Alors chacun a un petit paravent.
D'accord.
Et il va avoir sa carte individuelle, donc en plus petit. Hein,
en miniature quoi, d'accord.
Donc Long John Silver au début de la partie, il va aller faire une croix. Alors là, vous voyez pas l'équipement. Il va faire une croix sur sa carte pour dire le trésor est là. Bon, alors, on fait pas de croix hein, sur la petite carte. Si tu fais une croix, ça fait une zone de 2 cm. Ça fait 2 cm sur la carte normale. Donc, tu fais un petit point pour dire le trésor est là. Et important, dans les règles, ils disent si Long John Silver est pas sûr que t'aies trouvé le trésor ou pas, t'es censé l'avoir trouvé. Voilà,
D'accord. S'il y a un petit doute sur la zone.
Oui, voilà. Bon,
c'est l'avantage du joueur.
Ouais, je vais y revenir, mais quand tu joues Long John Silver, tu la joues un peu cool quand même pour les joueurs, quoi.
Ok.
Donc, je voulais revenir un peu sur l'histoire du jeu. Donc j'ai lu, Marc Paquin a écrit un article sur Trick Track sur le sujet. Alors c'est assez amusant parce qu'en fait il est parti de Dixit. Alors ça n'a rien à voir avec Dixit, mais il est parti du constat que Dixit était un jeu ouvert. Dans le sens où tu as des cartes et puis les gens vont donner les mots qu'ils veulent. Et du coup le jeu il va vraiment partir un peu n'importe où comme ça en fonction des joueurs qui sont autour de la table. Lui il voulait un jeu ouvert mais pas dans cet aspect là, il voulait un jeu ouvert sur le plateau, en gros t'as le plateau et voilà, tu vas où tu veux, tu fais ce que tu veux dessus, voilà. Et du coup il est arrivé à ce thème de la chasse au trésor assez rapidement, c'est-à-dire que quand tu dis je veux faire un truc où les gens ils vont un peu où ils veulent sur le plateau, machin, c'est vrai que ça peut venir assez facilement à l'esprit. Et puis il est allé comme ça de fil en aiguille, il est arrivé avec chasse au trésor, dessiné sur la carte, etc. etc. quoi. Et donc c'est comme ça qu'est né l'île au trésor. Alors je vous mettrai le lien vers l'article pour TrickTrack pour que vous ayez un peu plus de détails si vous voulez aller voir. Je ne vais pas forcément paraphraser ce qu'il a dit. Mais c'est intéressant de se dire que partant d'un jeu qui n'a absolument rien à voir avec celui vers lequel tu arrives à la fin, mais qu'effectivement si tu prends du recul, tu te dis effectivement il y a cette dimension là qui rend le jeu vraiment atypique. Le seul parallèle qui m'est venu à l'esprit, parce que j'aime bien faire des parallèles avec d'autres jeux, c'était Tobago, parce qu'il y a ce thème aussi de chasse au trésor. Sauf que dans Tobago, on n'est pas du tout dans le même style de jeu au final. Alors oui, t'as des trésors, en fait, t'as plusieurs trésors déjà qui pop dans Tobago. Tu te déplaces, oui, comme tu peux le faire dans l'île au trésor, mais sauf que dans l'île au trésor, tu as vraiment le côté recherche avec où tu traces, toi. Il y a vraiment ce côté dessin qui est assez important.
Ouais.
Et dans Tobago, c'est un côté finalement plus arithmétique. Et puis comme t'as plusieurs trésors qui pop dans la partie, t'en as même beaucoup hein, au final, bah t'as pas le même feeling. Dans Tobago, l'idée c'est vraiment d'amasser le plus de trésors. En plus, il y a tout un mécanisme qui fait que même si t'as pas trouvé le trésor, tu gagnes des points quand même. Enfin bref. Alors que là, il y en a qu'un de trésor.
Ouais. Et c'est vraiment une course, quoi.
C'est tu le trouves ou tu le trouves pas. C'est vraiment, ouais, c'est ça. Là, il y a une course dans la chasse au trésor, alors que dans Tobago, bah, c'est celui qui a le plus de points de victoire, quoi.
Ouais. Il y a Sol aussi, non, qui était assez proche de Tobago. Enfin.
Alors oui, c'est vrai qu'il y a Sol, ouais. T'as raison.
Tu cherches des trésors. T'es par équipe de deux et tu cherches aussi des trésors sur une île.
Ouais,
j'ai joué qu'une seule fois, j'ai plus en mémoire exactement.
C'est moins déduction, des mécaniques. C'est par équipe.
C'est plus pour. Enfin, il y a plus d'interactions avec les autres, genre tu peux les pourrir, etc.
Ouais,
tu peux mettre des pièges, ce genre de choses.
Alors que là, effectivement, tu peux pas du tout faire ça. Hein. Tu vas pas gêner les autres joueurs. Hein. C'est de la pure course. J'allais dire, dans ton coin, la seule interaction que tu as avec les autres joueurs, c'est de glaner les indices qu'eux, ils ont aussi. Quoi. En gros, les zones de recherche sur lesquelles ils sont passés, ben, toi, tu n'y vas pas. Et puis, tenter de... À partir du moment où quelqu'un va aller regarder les jetons pour savoir si l'indice était correct ou pas, ben, c'est d'essayer de deviner ce que l'autre a vu. Quoi.
Ouais.
Oui, effectivement, intéressant la comparaison avec Sol, mais c'est pas le même feeling. Après, il y a un côté course aussi dans Sol.
Oui.
Mais c'est vrai, mais il y a un côté affrontement qui est beaucoup plus présent, quoi.
Oui, c'est clair que je pense qu'il y a beaucoup plus d'interactions. Enfin, le jeu est aussi basé sur les interactions dans Sol.
Ah oui, alors du coup, ce que je voulais quand même rajouter par rapport au fait qu'il y avait qu'un trésor dans l'île au trésor, c'est qu'il peut y avoir un petit côté agaçant au bout d'un moment où tu as fouillé une zone, tu es à peu près sûr que c'est dans la zone et tu peux te retrouver à ce que le trésor t'échappe à 1 cm à 3 fois rien
parce que c'est un trou partout et en fait bah...
Oui, mais voilà ça, mais en fait tu couvres jamais vraiment complètement la carte.
Oui,
et,
oui.
Et quand t'es Long John, c'est pareil hein. Des fois tu dis le mec il a trouvé, mais genre le trésor il est au bord de son cercle, tu vois, t'as vu le tour un coup juste avant, tu l'avais décalé, t'étais pas dedans mec, tu l'avais pas, tu vois. Et là pourquoi t'as décalé ton truc au dernier moment, hein. Donc il y a ce côté là mais bon, pour moi je trouve pas ça gênant, mais ça peut, c'est vrai que des fois t'as l'impression de fouiller et ça peut avoir un petit côté longué.
Ouais.
Quand le jeu dure, quand t'arrives au moment où Long John va bientôt s'échapper, là, en général, t'es pas à 45 minutes de partie, quoi. Si Long John en est à s'échapper, t'es plutôt à une heure et quart.
D'accord.
En revanche, après, quand Long John s'échappe, voilà, ça repart, quoi.
Ça va très vite.
C'est vraiment, parce que là, t'as à nouveau la pression qui revient.
Ça se finit en 2-3 tours, quoi.
T'as passé l'agacement de pas trouver. T'es vraiment au... Putain, merde, faut que je trouve, c'est pas possible, il va pas trouver, quoi. Ça, il va pas gagner, c'est pas possible. C'est vrai que t'as ce jeu qui peut prendre comme ça deux temps, qui est assez amusant.
Okay.
J'ai noté pas mal de points, mais en fait, j'ai à peu près tout dit dans ce que j'ai dit précédemment. Alors, il y a un léger déséquilibre dans le jeu. C'est vrai que j'en ai parlé tout à l'heure. J'ai dit oui, quand on est Long John Silver, des fois on est un peu cool.
Ouais.
De base, en fait, c'est assez difficile de gagner en étant Long John Silver.
T'es plus une sorte de maître du jeu que de joueur qui joue pour gagner, quoi.
Des fois, tu le prends comme ça, du coup. Parce que ouais. Déjà, c'est pas du 50-50. C'est pas Long John Silver gagne la moitié du temps, les autres gagnent la moitié du temps. Le jeu, il a été prévu pour que tous les joueurs aient la même chance de gagner, en gros.
Ouais.
Sauf que il y a sur les stats qui sont données par Marc Paquin, il y a un léger déséquilibre quand même où en gros Long John Silver a un peu moins de chances de gagner.
D'accord.
C'est pareil, il faudrait que je les mette pour que les gens puissent les avoir sur le billet, mais en gros il dit déjà à deux joueurs par exemple c'est du 60-40 d'après ses stats.
D'accord.
À trois joueurs, toi ça tombe à 35 par pirate et 30% pour Long John Silver. Donc tu vois, il y a toujours un petit écart comme ça qui donne un léger avantage aux pirates.
Avantage aux joueurs,
ouais. Ouais. Okay. Oui, les pirates, c'est les joueurs non Long John Silver. C'est, je sais pas si je l'ai bien dit, mais bon.
Oui. Enfin, je l'avais compris, en tout cas.
Ouais. Voilà, donc bon, ça, il vaut mieux le savoir. C'est dit dans les règles, hein, d'ailleurs. Ils disent c'est difficile de gagner en étant Long John Silver. Voilà, il va falloir faire attention à ces indices qu'on donne, etc.
Bah après, c'est pas mal parce que c'est souvent le joueur... expérimenté ou qui connaît bien le jeu qui va jouer Long John Silver, donc bah,
ouais, du coup c'est ce qu'il conseille,
ouais, ça s'équilibre un peu de cette manière là quoi.
Donc, globalement quand tu joues Long John Silver, enfin moi la façon dont je le prends, c'est bon, je vais sûrement perdre, tu vois, donc du coup bah tu fais quand même ton maximum pour gagner,
pour
hein,
qu'il galère quoi,
voilà, mais
tu fais tout
mais
pour qu'il galère au maximum quoi,
ouais, tu dis oui de temps tous les cas,
tienne le plus longtemps possible
sur un malentendu, on sait jamais. mais du coup toi tu le prends peut-être un peu moins à cœur si tu perds, ou si tu vois que le mec il est à la limite. Bah ouais, tu dis ouais bah c'est bon, t'as trouvé, l'intention elle était là, c'est pas parce que t'étais à un millimètre, oui, du truc, toi bon. Et puis moi ce que j'ai pas dit aussi, c'est que le matériel est vraiment bien fait, hein, mais il n'empêche que tu peux avoir des approximations.
Oui, forcément, hein. Tu te rases sauver les dents, t'as l'épaisseur du trait, t'as
voilà, plein de choses. Quand tu fais au compas, t'as beau avoir pris ta mesure, ça reste à peu près quand même. Hein,
ouais, ça peut s'écarter un peu. Ou se...
Encore sur ces trucs-là, c'est... ça va encore.
Mais ça fait partie aussi du charme du truc, parce que effectivement, quand tu traces sur une carte, c'est jamais précis au millimètre, quoi.
Ouais, voilà, t'es vraiment pas au papier millimétré, hein, carrément pas. Hein. Mais c'est vrai que t'as des indices, comment ils appellent ça, des indices boussole,
ouais,
qui vont te... En gros, tu vas placer un gabarit aussi, hein, mais qui ressemble à une boussole octogonale. Tu vas la placer autour de ta figurine, et Long John Silver va te donner une carte qui va indiquer que le trésor ne se trouve pas dans tel quartier. Alors, c'est pas un quartier, du coup, mais c'est des... Si tu veux, la boussole est divisée en 8,
oui,
donc ça te dit c'est pas dans la partie nord, c'est pas dans la partie nord-est, tu vois, de la boussole, pardon.
La boussole.
Du coup là tu vas tracer des grandes lignes sur le plateau, et donc là tu vois ça devient un peu plus approximatif, parce qu'il faut que tu pointes le nord vers le nord, alors évidemment t'es pas forcément pile parallèle au bord du plateau, tu vois, bon. Donc là
il y a le milieu de l'île pour tracer ça, parce que tu peux tracer un peu à droite, un peu à gauche. Tu vois, si le trésor est vers le milieu de l'île, c'est d'autant plus approximatif.
Je vois pas trop ce que tu veux dire là. Je me suis peut-être mal, j'ai peut-être mal expliqué, mais c'est pas facile là. Pour le coup, c'est hyper visuel quand même.
Par exemple, si tu traces une ligne qui sépare le nord du sud.
Ouais, alors en fait, enfin, ça va séparer, ça va partir en biais en fait. Ça va forcément partir de biais en fait. Tu vas pas séparer le nord du sud, mais enfin, ce qu'il faut retenir en gros, c'est que tu vas tracer parfois des droites sur le plateau, et l'axe est pas forcément nickel. Le problème, c'est pas si tu le traces sur le plateau, tu vois, tout le monde a l'info, c'est pas gênant au final, mais ces indices là en fait tu vas les donner à un joueur qui va l'avoir par rapport à la position de sa figurine, et du coup il va le dessiner sur sa petite carte.
Non, c'est ça que je comprenais pas, c'était le point de départ,
c'est la figurine, pardon.
Parce que sinon, là où tu traces, si t'as pas un point de référence, effectivement, ça peut être compliqué. Mais ok, c'est par rapport à la figurine du joueur. Mmh.
Ouais, c'est ça. Du coup, il va retracer ça, toi tu vas vérifier sur le grand plateau, et lui il va retracer ça sur sa petite carte. Donc tu vois, il peut y avoir un petit écart qui fait que si pas de bol, le trésor est pas loin de la ligne, il peut passer d'un côté ou de l'autre, quoi.
Ouais. Voilà.
Bon, okay. Moi j'ai pas eu le tour, hein, mais j'imagine que ça peut arriver, quoi. Après, sinon, t'as des zones qui sont pré-tracées sur le plateau, parce que c'est des D'accord. zones qui sont données pour des indices. Donc là, elles sont pré-tracées, t'as des petits pointillés, donc après, t'as plus qu'à les suivre pour dessiner, quoi.
C'est plus facile.
C'est un jeu de dessin, en fait.
C'est plus facile.
Et c'est un roll and write, mais sans le roll. Oh putain, je me suis fait avoir. Voilà, je sais plus, j'ai plus trouvé où j'en étais, mais ouais, donc il y avait cette le histoire de petit déséquilibre. Ouais. Voilà. Bon, là, j'ai donné des petits bémols, hein, mais sincèrement, moi, je trouve le jeu absolument extra, quoi. C'est vraiment une expérience inédite. Je connais aucun autre jeu qui reproduit cette expérience. C'est vraiment de la chasse au trésor, quoi. C'est, je veux dire, on te dit c'est un jeu de chasse au trésor, tu joues à
la chasse au trésor.
Tu joues à de la chasse au trésor, quoi. On te ment pas, quoi. C'est voilà. Alors effectivement, ça peut dépasser les 45 minutes annoncées. Tu peux faire des parties. Je suis monté jusqu'à 1h30, donc toi, ça double.
Ouais.
Parce que il y a un peu de manipulation, parce que forcément, pendant qu'il y en a un qui trace, tu discutes, tu vas chercher les bières, machin, donc tu remontes, on t'attend, toi. Bon, bref. Voilà, quoi. Mais le plaisir du jeu, il est là quand même, quoi. C'est vraiment une expérience inédite, quoi.
Ouais, bah moi c'est un jeu qui m'avait bien attiré aussi par rapport aux explications de Fendel de Cannes l'année dernière. Je voulais l'essayer à Cannes cette année, c'était sur ma liste, on va dire, mais j'ai pas eu l'occasion parce que il y avait qu'une table et elle était vraiment prise d'assaut. Enfin, c'était compliqué d'avoir des places. Du coup, j'ai pas encore eu l'occasion de l'essayer, mais c'est vraiment un jeu auquel j'ai bien envie de jouer, effectivement.
Et ouais, la réalisation, elle est chouette. Enfin, Vincent Dutré, moi, je suis pas très fan de, je suis pas la groupie, tu vois, de Vincent Dutré ou un jeu qui sort de Vincent Dutré, je l'achète. Moi, qui suis pas forcément super fan, ça match nickel, c'est super beau. Le matériel, il est nickel. Bon, pour l'instant, j'ai fait 7 parties, je crois. Bon, moi, j'ai pas de problème avec les
feutres,
tout ça. Bon, ouais, ce serait vraiment prématuré pour le coup. Hein.
Ouais, après, si c'est les feutres, ça se rachète quand même assez facilement.
Alors, j'ai une figurine qui a un poil de travers, mais bon, ça, normalement, je crois qu'à l'eau chaude, ça se corrige. Et puis, j'ai une carte d'indice. Alors c'est pas une carte d'indice, pardon, c'est des. Bon, je suis passé un peu sur les détails, mais en gros au début de la partie, tous les joueurs vont avoir un indice sur une zone dans laquelle ne se trouve pas le trésor.
D'accord.
Et dans ces cartes-là, j'en ai une qui a un dos plus foncé. Alors j'ai cru comprendre que c'était un problème qui était large.
Dans toutes les boîtes.
Ouais. Mmh. Et du coup c'est vrai que c'est dommage parce que. Ce truc là normalement tu le planques
si
pas derrière
repères,
ouais tu le planques pas derrière ton paravent normalement et enfin il y a pas d'intérêt normalement tu vois et du coup ben au bout d'un moment tu sais laquelle c'est malheureusement donc du coup si tu la vois chez quelqu'un d'autre tu le sais donc
tu sais que c'est pas dans cette zone là ouais, c'est des zones qui sont grandes du coup
j'allais dire pour la blague un quart de la carte non c'est pas vrai il y en a je sais pas 10 peut-être
d'accord
comme
ouais, ça te donne quand même un bon indice quoi
oui ouais ça enlève un bon bout hein. Voilà j'ai pas essayé toutes les configs j'ai pas essayé la config à deux joueurs j'aurais bien voulu mais on n'a pas trouvé le temps avec ma femme pour tenter la config à deux joueurs en fait quand t'es à deux joueurs tu joues avec plus de figurines t'as quand même parce que je l'ai pas dit mais les personnages ont chacun un petit pouvoir qui va leur donner une petite caractéristique de jeu. Du coup, t'as quand même qu'un seul pouvoir, mais t'as trois figurines sur le plateau. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, tu peux faire des recherches à différents endroits du plateau.
D'accord.
Et quand t'es à trois, tu as deux figurines. Ça, j'ai essayé cette config-là. Enfin, moi, j'ai essayé la config 3 joueurs, 4 joueurs et 5 joueurs, je crois. En tout cas, c'est config. Enfin, ça marchait. Hein. Il y a pas. Et
oui, de toute façon,
tu sens que même à deux joueurs, alors ok, t'as pas le côté du coup à essayer de récupérer les indices des autres, ouais. Voilà, des autres mais bon, je vois pas trop pourquoi ça marcherait pas. Globalement, en général, moi j'aime moins jouer à deux, donc voilà. Donc je pense que j'y prendrais sûrement moins de plaisir à deux joueurs, mais je pense que ça marche tout à fait.
Ah ouais, après, t'as le côté vraiment affrontement qui est sympa quoi.
Oui, tu l'as quand même à deux, hein, le côté affrontement.
Oui, c'est ça. C'est ça que je dis, c'est que même à deux,
pardon.
T'as ce côté affrontement qui est sympa quand même, quoi.
Oui, tout à fait. Au niveau du public, quand même, on fait un petit focus. Alors, je pense que c'est pas du tout un jeu expert. Hein. Faut pas prendre ça comme un truc haut perché avec des indices de la déduction hyper high level et tout. Non, c'est de la déduction assez basique au final. Hein. Parce qu'en plus tout va être tracé sur le plateau et tout. Donc globalement on voit les zones qui restent, tu les vois, ouais. Et après c'est toi, t'as une partie de d'informations que les autres n'ont pas, et donc qui couvre d'autres parties du plateau, quoi. Mais voilà,
c'est du recoupement, ouais.
Bref, c'est pas un jeu expert. Ouais. Je pense que c'est pas non plus un jeu super simple à mettre dans toutes les mains. En tout cas, les règles, je les trouve pas super super bien écrites. En fait, j'avais eu la même impression avec Captain Sonar, et du coup, je me demande si c'est pas le fait que ce soit des jeux vraiment atypiques.
Ouais.
Qui rendent la règle
assez difficile à expliquer. Ouais.
Ouais. Alors, à expliquer encore ça va, mais la lecture des règles,
formuler,
en fait.
Ouais.
C'est plutôt la lecture des règles. Moi, je les trouve pas forcément super bien faites. Je me suis posé quelques questions, de choses au final que, tu vois, je me suis dit, est-ce que c'est bien ça, tu vois, mais je trouvais que c'était pas super clair. Alors, oui, en fait, j'avais bien compris. Donc, comme quoi, la règle, elle doit être quand même bien faite. Mais tu vois, ça laissait planer un certain doute.
Ouais.
Mais voilà, il faut vraiment lire la règle minutieusement. Après, je pense que nos auditeurs, moi, voilà, ils ont pas trop de soucis. Alors, oui, ils vont peut-être se planter sur un ou deux trucs, se poser les mêmes questions que moi. Mais dire j'offre ça à des gens qui jouent peu, je vous conseille pas.
Pour la compréhension des règles, ça peut être compliqué.
Voilà,
quoi.
Ouais, je pense qu'il va falloir accompagner pour les règles. Pour autant, jouer avec des gens qui jouent peu, je pense que c'est faisable.
Bien, ouais.
Ouais. Surtout si on leur fait jouer autre chose que le rôle de Long John Silver, parce que pour le coup, il faut se farcir quelques règles en plus dont les autres joueurs n'ont pas forcément besoin pour jouer, tu vois.
Ouais.
Donc voilà, donc c'est plutôt un jeu de milieu de gamme, de familial, on va dire, à familial plus, sur lesquels je crois que c'est donné à partir de 8 ans, je crois, je l'ai pas dit au début. Ah non, c'est 10 ans, ouais. Ouais, parce que j'allais dire 8 ans, ouais. C'est peut-être un peu short, mais ouais, je pense que ça doit pouvoir passer quand même avec des enfants un peu moins de 10 ans. C'est peut-être 9, quoi, voilà, on va dire.
Pour un petit peu l'habitude de jouer.
Oui, voilà, ouais. Oui. Non, parce que ouais, encore une fois, tu peux les accompagner quand même, parce que la plupart des choses sont visibles. Donc voilà, je vous le recommande chaudement.
Il va rejoindre ma wishlist, je pense.
Ouais. Bah, rien que pour l'expérience inédite, vraiment. Hein, c'est chouette de voir que avec autant d'années de jeux derrière toi, tu peux encore te trouver, te trouver devant des jeux qui innovent, quoi, qui amènent des choses vraiment, vraiment intéressantes et nouvelles. Alors, peut-être qu'il y a un truc que je connais pas, mais j'invite nos auditeurs dans ce cas-là à me dire en commentaire « Ah, mais il y a tel jeu qui fait déjà quasiment la même chose. » Ce serait avec plaisir.
Très bien.
Voilà, je refais la petite fiche vite fait. C'était L'île au trésor, donc un jeu de Marc Paquin, illustré par Vincent Dutré, édité par Matago, pour 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans. Des durées de partie de 45 minutes. Alors oui, donc le 45 minutes, donc c'est vrai, ça peut durer 20 minutes, ça m'est arrivé une fois où ça a duré 25-30 minutes, voilà. Comme ça peut durer 1h30, donc du coup je pense que c'est une moyenne qu'ils ont faite, et donc 42,90€ chez Philibert.
Eh bien, si vous avez aimé cette chronique, n'hésitez pas à venir sur le site pour nous le dire. Hein, laissez un petit commentaire, toujours, parce que Twin se sent un peu seul pour laisser des commentaires. N'oubliez pas également que nous avons un Tipeee ou un PayPal si vous voulez soutenir le podcast financièrement, où on accepte aussi tous les dons en nature. Hein, ça change pas. Voilà, donc on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro. Et en attendant, jouez bien. J'ai un clavier QWERTY en plus de mon côté, donc ça c'est pas facile, hein. Surtout pour le A qui est à la place du Q.
J'avais le tour après. Oui, yeah, pardon. Je fais mes réflexions dans ma tête en même temps et j'essaie de faire mes phrases en même temps, donc c'est un peu compliqué.